Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous.
RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus sur RTL. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Sidonie et salut aux curieux. On est ensemble jusqu'à 22h, évidemment.
Tout ça ?
Bah oui.
Ah, mais c'est tous les soirs comme ça, Romain.
Ça tombe bien, ça fait 4 mois que c'est comme ça. Allez, au programme, les secrets du ministère de l'Intérieur, Landru, Stavisky, mais aussi Mussolini, Trotsky ou encore Marie Curie. Ils ont tous un dossier dans les archives sensibles de la police. Et puis on va prendre, vous l'avez entendu, des nouvelles de nos aventuriers des océans, Géraldine Danon, Philippe Poupon et leurs enfants. Ils ont vu débarquer une vingtaine de pirates armés sur leur voilier. Fleur Austral, ils vont tout nous raconter.
Et maintenant, on part à la rencontre des chrétiens d'Orient.
Jusqu'à 22h.
100 000 chrétiens fuient actuellement l'Irak. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit scandalisé.
La curiosité est un vilain défaut.
Les chrétiens d'Irak sont là depuis 2000 ans. C'est leur pays, ils ne veulent pas les quitter.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Depuis 2000 ans, ils sont considérés comme les ennemis de l'intérieur. Les chrétiens d'Orient sont encore, aujourd'hui, persécutés et poussés à fuir leur pays, comme la Syrie et l'Irak. Un drame sans précédent qui interpelle évidemment la communauté internationale. On vous raconte l'histoire de ces croyants avec Pierre Baron, directeur de la rédaction d'Historia. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un habitué maintenant de notre studio. Vous êtes le bienvenu toujours. Vous publiez en partenariat avec RTL un dossier passionnant sur la question, sur les chrétiens d'Orient, bouc émissaire depuis 2000 ans. Bon, pour commencer, les chrétiens d'Orient aujourd'hui, ils sont où ? Ils sont combien ?
Ils sont où ? Ils sont dans une grande partie du bassin méditerranéen, puisque les chrétiens d'Orient, c'est les chrétiens qui étaient à l'est de l'Empire romain. Donc on les trouve dans l'actuelle Grèce, dans la Turquie, dans l'Égypte. On les trouve en Syrie, bien sûr, on les trouve en Irak. Et à l'extrême nord, c'est l'Arménie. Combien sont-ils ? J'irai à peu près 10, 11 millions. On n'a pas le chiffre précis de ces communautés qui, on va en parler, sont très éclatées. Mais on peut dire une bonne dizaine de millions. Bien évidemment, sans compter la diaspora hors de cette zone-là.
Pierre Baron, si on en parle aujourd'hui, c'est que les chrétiens d'Orient sont en grand danger. Ils sont des dizaines de milliers sur les routes en train de fuir leur pays. La Syrie, par exemple, pourquoi ils fuient la Syrie ?
Il y a 8 jours, le 21 janvier, une voiture piégée explose à Homs, dans le centre-ville. Homs, c'est la 3e ville de Syrie. Le bilan, c'est 15 morts et 8 blessés. Et cette voiture piégée explose juste à côté d'une église. Et elle explose à côté d'un centre d'assistance chrétienne. À Homs, toutes les églises chrétiennes sont saccagées. Toutes, sans exception. Il n'y en a plus une intacte. À Damas, la capitale, les paroisses chrétiennes de toute la banlieue de Damas ont dû fermer leurs portes. Aujourd'hui, vous avez rien que pour Homs, plus de 80 000 chrétiens qui ont dû quitter leur maison. La raison, elle est simple. Il y a une guerre civile en Syrie féroce depuis 2011. Cette guerre civile, il faut quand même rappeler qu'elle déchire aussi les sunnites et les chiites.
Donc les musulmans entre eux.
Il ne faut jamais l'oublier. Mais qu'à l'intérieur de ce déchirement intermusulman, ben les chrétiens sont pris en otage. Et ils sont otages et victimes de ce radicalisme qui sévit en Syrie. Puis on en parlera tout à l'heure, peut-être aussi en Irak.
Ah bah voilà. Justement, en Irak, est-ce que la situation est aussi grave? De qui sont-ils la cible en Irak? Parce que là aussi, le pays n'est pas pacifié, contrairement à ce que George Bush avait pu dire il y a quelques années.
Oui,
malheureusement.
George Bush, oui.
Voilà. Et donc, là aussi,
ça doit être collatéral, sûrement. Oui.
Voilà, là aussi, il y a la guerre. Et là aussi, les chrétiens sont une cible quoi, facile?
Oh oui, parce que selon le Croissant Rouge irakien, donc le pendant la Croix-Rouge sur place, rien qu'en été, au mois d'août de 2014, il y avait plus de 250 000, ce qu'on appelle déplacés, c'est-à-dire des réfugiés, qui arrivaient et qui fuyaient le nord du pays, parce qu'ils fuyaient les assauts de Daesh, et qui arrivaient par vagues dans la région du Kurdistan. Et ça, c'est uniquement sur le mois d'août de l'année dernière. Pour vous donner une idée, il y en a déjà 7 000 qui se sont réfugiés en Jordanie. On n'a pas parlé des pays d'exil, on peut en dire deux mots.
Oui.
C'est bien sûr le Liban, c'est la Turquie et c'est la Jordanie.
Qui les accueille facilement ou avec beaucoup de réticence ?
Non, ils les accueillent pas facilement parce que d'une part, c'est pas si simple de recueillir des milliers de gens avec une logistique décente d'eau et d'électricité au minimum et de vivre. Et puis derrière, il y a des arrière-pensées politiques considérables et des risques de déstabilisation des pays hôtes qui craignent eux aussi que l'afflux de ces chrétiens vienne perturber leur équilibre interne. La Jordanie reste un pays majoritairement musulman comme la Turquie.
Pour prendre la mesure de ces persécutions, je crois qu'il y avait environ 1 million de chrétiens en Irak il y a 10 ans. On sait combien ils sont aujourd'hui ?
À peu près, je dirais 80% de la population chrétienne de l'Irak en une décennie a été décimée ou est partie, juste pour l'Irak.
Donc il reste 200 000 personnes.
Oui, c'est ça. C'est probablement ce qui a de plus vertigineux. C'est le pays où... Mais est-ce que vous savez à partir de quand ça s'est amplifié en Irak ? Ça s'est amplifié à partir du moment où Saddam Hussein a été renversé.
C'est ça,
2003.
C'est-à-dire que tant qu'il y a un dictateur qui tient le pays, on peut considérer que les chrétiens de ces pays sont relativement épargnés, c'est ça ?
Oui, Thomas. Puis c'est pas seulement un fait du XXe siècle. Enfin, ça l'est aussi. C'est pas seulement si contemporain que ça. La République turque de ses débuts des années 20 était au départ une république laïque. Mmh. C'est très vite qu'elle a oublié ses idéaux laïques. Et il y a eu quelques années où les chrétiens de Turquie se sont mis à rêver qu'ils allaient enfin pouvoir vivre en paix, avant que l'islam devienne politique et de nouveau les oppresse. Mmh. Mais c'est vrai que le paradoxe, c'est que quand on a des régimes dictatoriaux laïques, d'une certaine manière, les minorités semblent, c'est pas qu'elles soient heureuses, mais vivre un peu plus en sécurité.
Pierre Baron, parmi les chrétiens d'Orient, il y a aussi les Coptes qui représentent à peu près 10% de la population d'Égypte. Est-ce que les Coptes sont en danger aujourd'hui ?
En danger physique, non. Mais la peur au ventre, certainement. Sous le régime du président actuel, Morsi, les Coptes subissent exactement les mêmes discriminations que c'était le cas avec Hosni Moubarak précédemment. Les chrétiens en Égypte sont exclus de tous les postes à responsabilité de l'administration, de la fonction publique. Quel que soit leur niveau d'études, ils n'y ont pas droit. Vous avez des choses un peu plus scandaleuses qui sont moins connues en Occident. Dans les manuels scolaires en Égypte, il y a des références à l'islam politique, très bien, mais les manuels affirment, je cite, que l'islam est la seule religion acceptée par Dieu. C'est écrit en toutes lettres pour les enfants. Pour vous donner un autre exemple de ce que peuvent subir les chrétiens, les coptes d'Égypte, il y a eu des fonds d'aide qui étaient venus de l'étranger pour des associations caritatives et qui ont été gelés par le gouvernement égyptien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chez les coptes, c'est quand même 8 à 10% de la population, c'est pas rien. Et ces gens ont été chrétiens 600 ans avant d'être musulmans. C'est pas gagné, et s'ils ont la paix, la question qui se pose, c'est pour combien de temps ?
La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle fait, Pierre Baron, face à cette tragédie ?
La communauté internationale, elle est un peu gênée aux entournures. Parce que déjà, on vient de le dire, les États-Unis portent une responsabilité dans l'exil forcé des chrétiens d'Orient. C'est une évidence. Je vous rappelle qu'on a eu la guerre du Golfe en 91, qui a quand même bousculé considérablement les équilibres des pays de la région. Ça s'est tendu encore plus avec l'intervention américaine en 2003. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à cette date, en 2003, il y avait 1,5 million de chrétiens en Irak. Mmh. Aujourd'hui, 150 000 à 200 000, on voit à peu près. Bousculer l'équilibre géopolitique de régime, je ne dis pas que j'ai une passion fabuleuse pour le régime syrien, mais le régime syrien n'avait pas jusqu'à présent persécuté les chrétiens comme ils le sont. Et au jour le jour, aujourd'hui, Daesh se sert de toute façon de la haine religieuse, il n'y a pas d'autre mot, pour persécuter ces gens, parce que c'est le chaos qu'ils veulent. Ce n'est pas du tout autre chose que le chaos intégral. Donc de toute façon, ils tueront n'importe qui, parce que de toute façon, ça fait partie du plan de chaos. Je précise que, et il faut quand même qu'on le dise dans cette émission, les soi-disant alliés de l'Occident, les soi-disant qu'on connaît bien, l'Arabie Saoudite, le Qatar, financent ces mouvements. Et sinon, ces gens n'auraient pas toutes ces armes. Et s'il y a ces morts, et s'il y a des centaines de milliers de gens, c'est aussi parce que nos soi-disant alliés sont de drôles d'alliés.
Mmh. Les chrétiens d'Orient d'aujourd'hui, des minorités opprimées, et pourtant c'est en Orient qu'est né le christianisme il y a 2000 ans. On vous raconte son histoire dans un instant sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce soir, dans la curiosité, on vous raconte l'histoire des chrétiens d'Orient, aujourd'hui chassés de d'Irak, de Syrie. On en parle avec Pierre Baron. Vous publiez dans votre magazine Historien, en partenariat avec RTL, un dossier sur ces croyants, bouc émissaire depuis 2000 ans. Alors, le christianisme est considéré comme une spiritualité occidentale, et pourtant, elle est née au Proche-Orient.
Née au Proche-Orient, c'est surtout, elle s'est développée, d'abord dans la partie orientale de l'Empire romain. Antioche, c'était la capitale de la province romaine de Syrie, dont on parlait tout à l'heure à l'époque. C'est là que les disciples de Jésus se sont donnés pour la première fois le nom de chrétiens. Donc on est vraiment au 1er siècle, ça démarre là.
Antioche, c'est quelques décennies une... après la...
Absolument, après la mort de Jésus, ouais. La crucifixion de Jésus. À partir de là, vous avez, à la fin du 3e siècle, le christianisme continue à se développer tout le long du golfe arabo-persique. Et là aussi... On est très très loin de Rome, Rome n'est pas concernée encore. Quand l'empereur Constantin va se convertir, c'est au début du 4e, les chrétiens d'Orient sont déjà, eux, une communauté nombreuse et très variée. Bien avant que Rome n'intègre, difficilement, le christianisme. Il y a une vraie avance de l'Orient, pour une raison simple, c'est la façon dont les premiers chrétiens se sont dispersés. Ils se sont dispersés, en fait... On peut appeler ça pour un petit sourire. On aurait presque pu dire que c'était les premiers routards de la foi du bassin méditerranéen. Ils ont pris des bateaux, ils ont pris la route et ils sont partis essentiellement vers l'Égypte, Alexandrie, autre grande ville très rapidement du christianisme, et Antioche. Ça a été les deux premiers pôles. Pour vous donner un exemple.
Dans une logique, pardon, de prosélytisme,
oui, complètement.
D'évangélisation.
Tout à fait, d'accord. Absolument. Il y avait eu un premier schisme important. Entre chrétiens et juifs, c'est qu'au début, les chrétiens étaient juifs et ils pensaient qu'il n'y avait pas d'antagonisme. Je sais que ça peut paraître curieux, mais il y avait une divergence sur la nature de Jésus. Est-ce que oui ou non, si c'était un prophète qui avait été envoyé là pour les débarrasser des Romains, ou est-ce que c'était le Fils de Dieu ? Bon, c'est pas une question secondaire, certes, mais on pouvait être juif et chrétien au tout début. Et puis, très vite, avec Paul, on s'est dit non, on va se passer des rites juifs. On va être que chrétien. En 68, il y a l'incendie de Rome, d'accord ? En fait, c'est Néron qui met le feu à la ville, bon. Mais il va accuser les chrétiens. À ce moment-là, en 68, c'est pas vieux, 30-40 ans après la mort de Jésus, vous avez la Grèce, l'Italie, le sud de la Gaule et l'Espagne, tous ces pays ont entendu parler de Jésus. Tous, déjà. Ils en ont entendu parler par des soldats convertis, par des marchands, converti, ou encore, faut jamais oublier ça, par des témoins de la vie de Jésus. C'est ça les routards de la foi. Mmh. Mais ça part beaucoup plus à l'est au début que ça ne part à l'ouest.
Est-ce qu'on peut dater le début de la persécution des chrétiens, Pierre Baron ?
Oh, ça commence vite. On cite dans le dossier le diacre Étienne qui a été lapidé. C'était un juif hellénophone, enfin il parlait le grec, comme toute cette partie du globe à Alexandrie. Vers l'an 35, donc c'est 2 ans après la mort de Jésus, donc ça n'a pas traîné. En l'an 42, il y a Hérode, le roi Hérode, le fameux roi Hérode de la Bible, qui a fait mettre à mort l'un des apôtres, et non le moindre, Jacques, et, excusez du peu, il a fait emprisonner Pierre, qui réussit miraculeusement à s'évader. Et c'est à partir du moment où Pierre s'évade que la communauté se disperse. Et elle part effectivement plutôt vers l'est que vers l'ouest. Mais Pierre va arriver à Rome, lui, en 48. Et là, les ennuis vont commencer pour les chrétiens à Rome. Voilà.
Les chrétiens d'Orient, on fait un peu des sauts dans le temps aussi, Pierre Baron, pour bien raconter leur histoire. Les chrétiens d'Orient sont persécutés sous l'Empire romain. Par qui et pourquoi ?
Ils sont persécutés par l'Empire romain parce que l'Empire romain, c'est la puissance, la superpuissance de l'époque. Et les premières victimes chrétiennes des persécutions de l'État romain, elles habitent des villes orientales. C'est tout simplement pour ça que les premières victimes de Rome, si j'ose dire, elles sont à l'Est. Ça arrive à Rome de façon très rapide, à la fin du 1er siècle. Mais là, il se pose une question de société pour Rome. Rome est une puissance, et donc elle ne peut pas supporter les valeurs des chrétiens. Les Romains, ça ne les gêne pas beaucoup, les chrétiens, au début. Pour eux, c'est une secte et rien d'autre. Ça n'a pas grand intérêt. Seulement, le problème, il vient des chrétiens. Les chrétiens, eux, ils font un bazar de tous les diables. Eux, ils disent, attendez... Ça va bien, les dieux du stade, ça va. La mise à mort des gens, c'est pas possible, ça. Nous, on peut pas. Allez donc raconter ça aux Romains.
Donc, ils remettent
ans,
en cause.
On massacre les... et qu'on sacrifie des gens dans une arène.
Ils remettent en cause les bases de la société romaine.
Oui. Bien sûr qu'il y a le problème du monothéisme, mais aussi toute la culture romaine. Le sacrifice, la mise à mort, tout ça, c'est impensable pour des chrétiens. Donc, évidemment, hop, au lion.
On continue de raconter ces millénaires de violences subies par les chrétiens d'Orient grâce au magazine Historia. On continue de raconter leur histoire sur RTL ce soir.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et on vous raconte ce soir l'histoire des chrétiens d'Orient, ces croyants persécutés, aujourd'hui obligés de fuir leur terre en Syrie, en Irak, chassés par Daesh, par l'État islamique. Pierre Baron, vous publiez, je le rappelle, dans Historia, en partenariat avec RTL, un dossier sur ce thème, les chrétiens d'Orient, bouc émissaire depuis 2000 ans. On va continuer de dérouler le fil de l'histoire, mais je vous avoue que ce titre, bouc émissaire depuis 2000 ans, il m'a fait tiquer. Il n'y a pas de moment de cohabitation, d'espoir, d'harmonie, même dans certains pays, pendant quelques décennies.
Il y a une parenthèse heureuse pour les chrétiens d'Orient au XVIe siècle, sous la domination turque. On leur fiche la paix, c'est déjà énorme. Il faut rappeler simplement que François Ier avait signé avec Suleiman le Magnifique un accord qui en faisait le protecteur des chrétiens. Et que cet accord, d'une certaine manière, garantissait la France, en tout cas le royaume français, comme étant garant, même très lointain, de la liberté de culte des chrétiens sur place. Et ça, ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné longtemps. Donc je vous accorde que c'est 2000 ans moins 20.
Oui,
mais pour le reste, oui, ils ont eu une parenthèse heureuse. De mémoire d'historien, hélas, c'est à peu près tout.
Donc c'est vraiment très peu de temps, on l'a bien compris. On va continuer de dérouler ces étapes capitales dans la vie des chrétiens d'Orient. 7e siècle, islamisation, conquête arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe?
Au départ, l'islam va... Comment vous dire? 7e, 8e siècle, c'est la plupart des chrétiens d'Orient qui sont là, effectivement, depuis 700 ans. Ils vont passer tous sous domination musulmane. Bon, très bien. Ça change pas grand-chose pour ceux de Mésopotamie. Ils avaient déjà un pouvoir non-chrétien qui les tenait sous la botte, il n'y avait pas de souci. Pour la plupart des églises orientales, assez paradoxalement, c'est pas si mal au début. Il y a plus de liberté et une amélioration globale de la condition chrétienne. Ça va se gâter assez vite. Ça va se gâter assez vite pour des raisons un peu fiscales quand même. Et surtout religieuse.
Un peu fiscale,
parce que...
Oui.
Raison fiscale, parce que quel que soit... Au départ, la pression fiscale des musulmans n'est pas plus forte que celle des Romains. Mais ça va augmenter. Ça va devenir de plus en plus pénible. Vous n'êtes pas obligé d'être un riche chrétien pour croire. Donc ça devient pénible d'avoir à payer, parce que c'est ça l'histoire.
Parce qu'on paye
il faut payer pour avoir la
est...
paix. Il faut payer pour pouvoir pratiquer. Il faut payer pour avoir le droit d'aller à l'église. Et ça, si la pression fiscale monte, forcément... vous allez exclure des gens, entre guillemets, modestes, parce qu'ils sont chrétiens. Ça, c'est le premier point.
Donc, il y a des exils?
Il y a des exils ou des apostats, ou des gens qui pratiquent...
Ou des incitations à se convertir...
tout à fait. Qui sont plus ou moins sincères, mais par la force des choses. On sauve sa peau, dans ces cas-là.
On devient musulman pour payer moins d'impôts.
Oui, ou on devient musulman pour officiellement avoir la paix, même si on fait le signe de croix quand on est chez soi, je suppose.
D'accord, donc ça ce sont les raisons religieuses, fiscales, et il y a des raisons religieuses, évidemment.
Oui, il y a des raisons religieuses, parce que très vite l'islam va prendre une dimension politique. Et à partir du moment où elle va prendre une dimension politique, elle va créer, d'une certaine manière, un statut des chrétiens, sous domination. Certes, si vous regardez tous les textes, c'est une communauté protégée. Mais elle a un statut, comment vous dire, d'infériorité légale, pour dire les choses. Voilà. Les chrétiens sont, depuis des siècles, sous domination musulmane, en infériorité légale. Nous, on a publié un très beau texte qui date de 638, c'est quand Jérusalem tombe, quand elle est prise par les musulmans. Le patriarche de l'époque signe un pacte avec le deuxième calife, Omar. En gros, ce pacte, ce texte, c'est les chrétiens qui l'acceptent, hein. Il va réglementer la pratique de la foi chrétienne. C'est court, mais tout est dit.
Donc le patriarche, pour bien comprendre, c'est le représentant...
Le patriarche jacobite, c'est celui qui, à Jérusalem, était le responsable des chrétiens de Jérusalem.
C'est ça, d'accord. Et donc c'est lui qui écrit ce texte.
Oui, enfin, il le co-signe avec le sultan.
Alors allons-y.
Et il y a quatre points, je trouve, qui sont assez éloquents. Ce sont les chrétiens qui parlent, et c'est leur engagement. Nous ne chevaucherons pas de juments ni de chevaux. Et oui, cheval, c'est noble. C'est pour les Arabes. Les chrétiens vont muler. Nous inclinerons nos têtes devant les musulmans. Vous la voyez, l'infériorité légale? Nous ne mettrons pas la croix et nos livres sur le chemin emprunté par les musulmans. Nos demeures ne devront pas surplomber les demeures musulmanes. Des fois qu'on soit plus riche. Nous montrerons tout le respect envers les musulmans. Nous leur offrirons notre siège s'ils désirent s'asseoir. Ça cause, non ?
Donc on les tolère, mais tête basse.
Exactement.
On parlait de l'islamisation de cette partie du monde et du sort des chrétiens d'Orient. Donc c'est quand même plutôt, même s'ils sont les chrétiens d'Orient dans une situation inférieure, on leur fiche la paix quand même. Et ça va durer combien de temps, Saint-Pierre Baron ?
Ça va durer plusieurs siècles. Toute la domination ottomane est une période, et ça dure 400, 500 ans facilement, où, encore une fois, ils sont contrôlés de très près. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait de persécution de masse. Par contre, régulièrement, surtout au XIXe siècle d'ailleurs, à partir de la fin du XIXe, 1880, il y a les pogroms qui arrivent régulièrement, sous domination russe. Sous domination turque, je vous prie de m'excuser. Et là, vous commencez à avoir des massacres de chrétiens qui arrivent et qui sont relatés par les chroniques. Voilà. Faut préciser une chose, quand on n'a pas parlé d'un mot important, on va faire un flashback monumental, c'est les croisades.
Et ça, on va en parler dans un instant.
Alors, j'ai rien dit, votre honneur.
On s'interrompt, on en parle dans un instant. Des chrétiens qui vont se battre contre d'autres chrétiens. Les croisades, évidemment, Pierre Baron, 11e siècle, là, tout de suite sur RTL.
RTL.
Première radio de France. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Des croyants persécutés à cause de leur identité ethnique et religieuse. On vous raconte l'histoire des chrétiens d'Orient. 2000 ans d'une histoire bouleversante et violente. Pierre Baron, vous publiez dans Historia, en partenariat avec RTL, un dossier sur ces croyants qui, au XIe siècle, ont de nouveaux ennemis. Ce sont les croisés. D'où viennent-ils, les croisés ?
Les croisés viennent de la Sainte Église catholique. Urbain II lance la première croisade à la fin 11e siècle, 1098. Officiellement, je dis bien officiellement, c'est pour porter secours aux chrétiens d'Orient qui étaient malmenés par les Turcs. Un peu plus tard, l'idée de libérer ou de délivrer Jérusalem est venue. On se dit quand même sur le papier des chrétiens qui viennent en Terre Sainte, entre guillemets, ça devrait aller mieux pour les chrétiens sur place que nenni.
Qu'est-ce qui va se passer ?
Parce que, en fait, les chrétiens qui sont sur place, qui arrivent, qui conquièrent la Terre Sainte aux dépens des musulmans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils la restituent pas, ils restituent pas ces terres ou les églises aux églises qui étaient déjà implantées. Ça veut dire que dans les villes comme Antioche, Tripoli, Jérusalem, Tripoli, c'est au Liban, hein, c'est pas en Libye.
Ouais.
À Jérusalem, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des patriarches grecs orthodoxes et ils sont évincés au profit d'évêques nommés par les nouveaux venus. Donc vous avez la décapitation, si j'ose dire, de la hiérarchie religieuse locale, des terres, des paroisses et des églises qui sont destituées aux églises d'Orient au profit de l'église romaine.
Donc c'est les catholiques contre les autres chrétiens.
Exactement.
Si je comprends bien.
Oui, oui. Encore une guerre fratricide, quoi.
Et le quotidien des chrétiens d'Orient pendant ces croisades ?
Eux aussi sont pris en otage, parce que dans un premier temps, selon le sort des armes, quand les chrétiens obtiennent des victoires, ça se passe très bien. Évidemment, ils sont du côté du manche, si vous me permettez l'expression. Ils vont indiquer le chemin, ils vont donner des indications très fortes aux chevaliers, donc ils sont du côté des vainqueurs. Mais quand il y a des revers, les premières, c'est pas les chrétiens latins, les victimes, parce que eux, ils sont dans des forteresses, dans des krats, on appelle ça, hein, ça s'écrit K-R-A-C-H, mais c'est des forteresses très fortes. Ils sont à l'abri. Par contre, les chrétiens d'Orient, eux, ils sont dans la foule, ils sont dans les villages, et c'est eux qu'on brûle, c'est eux qu'on persécute. Et la première victime des Arabes sur place à ce moment-là, c'est les chrétiens locaux.
Et ces différentes communautés chrétiennes, vous avez parlé des coptes, est-ce qu'on peut les citer ? Il y a quoi ? Par exemple, les maronites ?
Vous avez les maronites, vous avez bien sûr les arméniens, vous avez les coptes, oulala.
Il y a quoi ? Les syriaques, c'est des chrétiens aussi ?
Toujours, oui, tout à fait. En fait, il y a eu deux, on va faire simple, il y a eu deux grands conciles qui ont créé quatre types, c'est des questions théologiques absolument vital sur la nature de Marie, savoir si Jésus était plus un homme qu'un dieu, enfin, vous voyez le genre, quoi. Donc, à partir de là.
Mais là-dessus, on se sépare.
Oui, mais on est en Orient, donc tout est compliqué. Ouais. Si vous... À partir de là, effectivement, vous avez eu les maronites, les coptes, les orthodoxes, faut pas les
bien
oublier.
Bien sûr, on avait oublié.
Les melkites, Hein, je ne pourrais pas vous faire deux heures sur les Melkites, mais ça existe, les Arméniens et les Nestoriens.
Voilà. Les Nestoriens aussi. Nestoriens. Voilà, donc là, on a fait une liste des, voilà. Des différentes églises chrétiennes.
Sur des questions théologiques plus que
pointues. Oui, on a bien compris. Mais qui, en fonction des pays, vont pouvoir se retrouver en conflit avec les chrétiens et les catholiques qui mènent les croisades.
Puis il y a une autre conséquence, c'est que comme ils se divisent, ils sont plus fragiles, ils sont plus vulnérables. Parce que ces querelles théologiques, il y a une grande, grande différence entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. C'est que les chrétiens d'Orient ont une langue de base, c'est le grec, mais ça, c'est pas très grave dans ce qui nous préoccupe. C'est surtout qu'ils ont beaucoup moins de reconnaissance d'une hiérarchie centrale. Mmh. Vous savez, l'évêché, puis ça monte jusqu'au pape. Il n'y a pas cette culture-là en Orient. Donc, plus vous subdivisez les églises et les paroisses, plus d'une certaine manière vous les fragilisez. Mmh. Puisque de toute façon, puisqu'ils ne dépendent pas d'un pouvoir religieux ou politique central.
Mmh. Alors, un petit saut dans le temps. 14e siècle, la naissance de l'Empire ottoman, qui va dominer le bassin méditerranéen, c'est ça ?
Ah oui, complètement. Sans partage. Pratiquement 18e, 19e, on va
dire. Donc pendant 4 à 5 siècles.
Oui,
alors là encore, c'est toujours un peu la même question, mais comment les chrétiens qui vivent dans ces zones-là, autour du bassin méditerranéen, qu'est-ce qu'ils vont subir, en fait ?
On va revenir presque au texte de tout à l'heure, c'est la même chose. Au 19e siècle, l'Empire ottoman, seuls les musulmans ont le droit d'être appelés turcs, uniquement. Les non-musulmans sont des Ottomans. Les autres sont des Turcs. D'accord ? Donc déjà, une différence de statut. Mmh. L'Empire ottoman, il a une hiérarchie très forte de ses sujets. C'est très, très clair. D'abord, il y a les musulmans, et après, il y a les non-musulmans. C'est-à-dire les chrétiens et les juifs, il ne faut jamais oublier, cohabitent. Qui vont voir leur communauté régie uniquement par les autorités religieuses ecclésiastiques, musulmanes. Mais attention, elles légifèrent autant en matière religieuse que civile. Ce qui veut dire que la loi du culte, mais la loi civile, elle est faite par des autorités musulmanes pour des chrétiens et pour des juifs. Mmh. Il y a donc bien deux statuts avec des populations qu'on tolère, mais qui sont visiblement de rang et de statut, entre guillemets, inférieurs.
Et pour vous, Pierre Baron, ça explique le traitement aujourd'hui des chrétiens dans le monde musulman ?
Oui, parce qu'il y a une rémanence tout le temps. On les considère comme étant la cinquième colonne. On les considère toujours comme étant les antennes de l'Occident. On parle de la domination pendant 500 ans des Ottomans. À aucun moment, les Ottomans, les Turcs, ont toujours considéré que les chrétiens, les Arméniens en premier chef, étaient assimilables. Jamais, à aucun moment de cette histoire. Jamais. Et pour eux, ils étaient même étrangers au projet national turc. Donc, c'était des citoyens au mieux de seconde zone. Et en réalité, dès qu'il y avait un conflit avec l'Occident, ça redevenait des ennemis de l'intérieur.
Mmh. Vous parlez des Arméniens, Pierre Baron. Le 24 avril prochain, ce sera le centenaire du génocide arménien. Comment vit ce peuple, les Arméniens, avant le génocide ?
Il y a l'avant et l'après 14-18 pour les Arméniens, parce que tout a basculé à ce moment-là. Comme vous le savez, la Turquie a été l'alliée de l'Allemagne en 14. Pourquoi ? Parce que la jeune garde, si j'ose dire, des jeunes turcs laïcs, encore une fois, à l'époque, se disaient qu'il fallait avoir l'appui d'une puissance militaire forte. Ah, ils ont fait le mauvais choix, ils ont choisi l'Allemagne. À partir du moment où il y a eu les premières défaites des Turcs, ils ont paniqué. Et ils se sont dit qu'il fallait absolument qu'ils liquident toute trace de chrétienté parce qu'ils allaient perdre et que la conséquence de la guerre, c'était qu'on allait aussi leur enlever le pouvoir. Donc ils se sont retournés contre leurs chrétiens, comme étant une fois de plus des envoyés ou des émissaires ou la cinquième colonne des alliés. Et sentant perdre la guerre, ils se sont dit on ne pourra plus contrôler l'Anatolie. Donc il faut des massacres. Et les massacres, il y en avait eu fin du 19e, mais tout s'est basculé à la fin 1914-1915. Il y a un vrai déclic. Dès qu'ils sentent que la partie ne sera pas gagnée, c'est les Arméniens qui vont en faire les frais.
Et cette région de l'Anatolie, les Arméniens étaient quoi, majoritaires dans cette région ?
Non, ils étaient nombreux, mais pas majoritaires.
Ils étaient minoritaires, mais ils étaient nombreux.
Non, mais ils étaient loin d'être négligeables. C'est une population forte. Aujourd'hui, on l'a noté, les Arméniens, l'église arménienne catholique, ça représente tout de même 3 800 000 fidèles. Dans l'Arménie et ex-URSS. Mmh. Et 1 700 000 en diaspora. C'est pas rien comme communauté.
Les Arméniens vont être déportés, massacrés ?
D'abord, on va s'en prendre aux notables, en leur faisant croire que c'est simplement des rafles. On commence par ça. On tape nuitamment à la porte des docteurs, des avocats, et on leur demande de les suivre au commissariat. Ça démarre de façon très anodine. On veut surtout pas qu'il y ait de soulèvement. Mais ça rate. Ça échoue. Et les Arméniens, ils se parlent, ils arrivent à faire savoir qu'il y a un mouvement de masse. Et donc, ils vont se révolter. Et c'est à la suite de ces révoltes qui interviennent à peu près vers 20-25 avril que la répression va devenir féroce. Et là, vous allez avoir effectivement des déportations, des exterminations de masse.
Ça prend quelle forme ? Ça prend parce que quand on dit génocide, forcément, on pense au génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. En quoi c'est comparable ? En quoi c'est différent ?
Ce sont des tueries. Vous voyez, les rares photos dont on peut disposer montrent des colonnes entières de gens encadrés par l'armée qui traversent des villages et qui vont soit dans des camps provisoires où on les assassinera à coups d'une barbale, soit qu'on affamera.
Beaucoup de morts pendant les marches aussi, c'est
oui,
ça ?
Oui, il y a aussi beaucoup de gens qu'on laisse mourir de faim aussi, qui arrivent, je dirais, à destination plus morts que vivants, si vous me permettez.
Ce génocide, c'est toujours, ça a été un point d'achoppement dans les relations entre la France et la Turquie. Pourquoi ? Parce que la Turquie ne reconnaît toujours pas cette part de son histoire ?
Je pense qu'on s'y prend très mal avec cette histoire, parce que la seule façon qu'on aurait d'avancer, ce serait de mettre des historiens turcs et des historiens arméniens autour d'une table et d'arrêter de le donner de leçons de morale à toute l'humanité. Ce serait d'avoir un dialogue de gens de savoir sur ce qui s'est réellement passé. Je vous rappelle que même aujourd'hui, pour les Britanniques, il n'y a pas de génocide arménien. Aujourd'hui, en 2015, ça n'existe pas à Londres.
Mais ça, c'est de la réelle politique. C'est pour ne pas se fâcher avec la Turquie.
Exactement, Thomas. Donc, il serait peut-être temps que les Turcs et les Arméniens s'assoient autour d'une table au niveau historien et que peut-être là, la réalité des faits puisse être établie avant les considérations commerciales.
Merci infiniment, Pierre Baron. La terrifiante et passionnante histoire des chrétiens d'Orient est à lire dans le numéro d'Historia qui est en kiosque. Et puis, dans un instant, on part retrouver nos aventuriers, Géraldine Danon, Philippe Poupon et leurs enfants que l'on suit chaque semaine sur RTL. Ils ont été attaqués par des pirates. Ils
oui, sont normalement, c'est un moment de respiration.
Oui, c'est les Caraïbes, c'est paradisiaque, mais là non.
Mais là, il y a eu une attaque de pirates. Elle va nous la raconter dans quelques minutes. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.